14h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tour, donc, et vous en rêviez, la revoici, l'émission avec le service de santé universitaire de l'Université de Tours. Aujourd'hui, le sujet, c'est la santé environnementale. Avec moi, pour en parler dans ce studio, trois experts et expertes, j'ai le plaisir de recevoir Lina Fanor. Bonjour.
Bonjour Mélissa.
Stagiaire en santé publique, à côté de vous, Gurvan Lebouette, bonjour.
Bonjour.
Étudiant relais santé et enfin Simon Fortin, médecin de santé publique et prévention, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être tout d'abord, peut-on se pencher sur la santé environnementale, de quoi parle-t-on?
Pour ce qui va être de la santé environnementale, on va déjà essayer d'expliquer ce qu'est la santé. Donc selon l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Il consiste pas seulement en absence de maladies et d'infirmités. Et après, on va commencer à définir aussi qu'est-ce que le public. Donc ça va être, selon Larousse, ce qui est commun à l'usage de tous et accessible à tous, ce qui nous envoie à la santé publique, selon l'OMS, qui est les sciences et arts de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé physique et mentale à un niveau individuel et collectif. Donc son champ d'action contient les systèmes de promotion de la santé, de prévention de maladies, de lutte contre les maladies, donc avec la médecine et les soins, et de réadaptation. On va aussi avoir ce qui nous concerne, la santé environnementale ou environnement. Certains vont essayer de faire la différence, mais en soi, c'est la même chose. Ça va être la qualité, donc ça va être sur la qualité de l'environnement, les risques, les bénéfices pour la santé, les relations, interactions entre l'environnement et la santé, ensemble des aspects de santé et de qualité de vie des populations résultant de l'action sur l'homme. Donc avec les facteurs biologiques, chimiques, physiques, de l'environnement, qu'il soit d'origine naturelle ou anthropique. Je peux faire aussi une brève histoire.
Mais oui, avec plaisir.
Donc, pour la petite histoire, l'idée de la santé de l'environnement, c'est vraiment pas récent. Pendant des années, c'est le fondement principal de la médecine. On a Hippocrate qui va écrire dans son traité Ère aux lieux, donc je cite, « Pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. » Donc, fin de citation. Ces questions sont posées au 5e siècle, avant notre ère, et Galien, lui, au 2e siècle, du coup, va reprendre la théorie des humeurs d'Hippocrate et se l'approprier. Il va juste falloir attendre d'arriver au 18e siècle avec Ramazzini, qui lui va inventer, entre guillemets, la santé du travail, parce qu'il ne va pas inventer en soi la santé du travail, mais il va inventer le concept et essayer de réfléchir à ça en disant cela. Donc écoutons Hippocrate, il faut lui demander, donc en parlant du malade, ce qu'il sent, quelle est la cause, depuis combien de jours, mais à ces questions, qu'il me soit permis d'ajouter quel métier fait-il. Donc là, on va vraiment commencer à se rapprocher de qu'est-ce que la santé environnementale, donc qu'est-ce qui entoure le malade et pourquoi il est malade, et qu'est-ce qui va pousser à cette maladie. Donc c'est comme ça qu'on va aussi commencer à découvrir des causes à effet selon certains métiers. Donc pareil comme avec les mineurs ou les forgerons, avec le charbon qu'ils vont extraire, on va aussi pouvoir découvrir une matière qui va vraiment se mettre dans les poumons et qui va déclencher des maladies plus tard. Donc voilà. Et va falloir attendre la médecine moderne qui va, elle, avoir lieu au 19e siècle. Et elle va s'organiser en trois pôles, donc clinique, expérimentale et sociale. Et maintenant, on va commencer à évoluer petit à petit en prenant en compte le réchauffement climatique et qu'est-ce que cela aussi apporte sur l'environnement et comment les travailleurs et travailleuses vont ressentir les effets de tout cela.
Voilà, avis aux travailleurs et travailleuses. Alors, je vous laisse poursuivre, parce que vous avez prévu plein de choses pour cette émission. Alors.
Donc, on voulait parler ensuite des écrans, et notamment de l'impact des écrans sur la santé. Donc, on a parlé effectivement de santé humaine, mais également en fait en termes de santé environnementale. Au quotidien, et c'est valable pour tout le monde, dont les étudiants, on passe énormément de temps sur nos écrans. Ça fait partie intégrante de notre vie, et en fait, dans tous les champs de notre vie, on retrouve des écrans. Pour le travail, donc notamment sur la prise de notes sur PC, on va parler notamment pour les étudiants, la lecture des mails sur une tablette, les divertissements sur les smartphones, le fait de regarder des vidéos, aller se connecter sur son réseau social, aller sur des applications de rencontres, pour regarder l'actualité, pour regarder des films également sur un écran de TV. Parfois même, sa montre est un écran. Donc tout ça fait que c'est un temps d'écran qui est important dans son temps quotidien. Il faut savoir que de nombreux chiffres existent sur le temps moyen passé devant un écran et que ce chiffre peut varier de 6 à 9 heures en moyenne selon les études. Alors pourquoi ces écarts de chiffres? C'est lié à deux choses, c'est la façon déjà dont on va mesurer le temps d'écran. Ça peut être d'un côté le fait de demander et que ce soit du déclaratif auprès des personnes, et puis ça peut être mesuré également. Donc déjà ça peut expliquer certaines différences, et en plus de ça, ça dépend également de la façon dont on va demander sur l'utilisation des écrans. Est-ce que c'est pendant le week-end? Est-ce que c'est pendant le travail? Est-ce que c'est une journée classique? Est-ce que c'est la moyenne sur une semaine, etc. En gros, l'idée qu'il faut retenir, c'est que tout Français, toute personne qui utilise des écrans passe en moyenne entre 6 et 9 heures par jour, que ce temps-là est important et que ce temps-là a tendance à augmenter au fur et à mesure des années. Et notamment, ce phénomène d'augmentation était particulièrement retrouvé ces deux dernières années avec la pandémie, et quand on parle des étudiants pour la réalisation de l'ensemble des cours à distanciel, tout ça c'était du temps d'écran augmenté. Alors les effets sanitaires des écrans sont déjà connus et ils sont nombreux. Ça va être premièrement des troubles du sommeil, des addictions potentielles, un isolement, des troubles visuels. Il y a également le cyberharcèlement qui est finalement aussi fait partie des problèmes liés à ces écrans. Des troubles de l'attention et de la concentration, des maux de tête, etc. Les écrans, et plus particulièrement nos écrans portables, à la durée de vie donc plus courte que les écrans classiques comme les téléviseurs ou PC, ont un impact environnemental, puisqu'ils ont un cycle de vie également plus court. Donc de leur production, par l'extraction des minéraux pour la batterie ou la fabrication des écrans, à leur recyclage, en passant par leur transport, les nombreuses recharges que comportera leur cycle de vie et leur utilisation. Notamment si on utilise le streaming, des services de stockage sur un cloud, tout ça, ça a un impact non négligeable au niveau environnemental. Il existe donc des recommandations de bonnes pratiques pour permettre de diminuer, on va dire, les effets sanitaires tant sur la santé humaine que sur la santé environnementale. On va pouvoir en faire une liste aujourd'hui. Premièrement, et ça c'est notamment pour les troubles du sommeil, utiliser un filtre qui va filtrer les lumières bleues sur le téléphone, ça peut permettre, notamment sur le téléphone, ça peut permettre justement de diminuer ces troubles du sommeil. Ces filtres bleus, on peut les retrouver dans les réglages internes des appareils, c'est ce qui va donner un peu un aspect orangé aux écrans. Mais également, pour ceux qui ont des lunettes, c'est la possibilité d'avoir un filtre bleu directement dans les lentilles ou dans les verres de contact qui peuvent justement permettre ça. Et donc ça permet notamment en fin de journée de diminuer les lumières bleues, puisque ces lumières bleues sont un stimuli pour le cerveau d'une lumière d'aube de début de journée. Et donc avoir une grande quantité de lumière bleue en fin de journée, c'est un stimuli pour le cerveau de début de journée, et donc ça perturbe le cycle du sommeil, et notamment l'endormissement et la fin du sommeil. Ce qu'on peut également dire, c'est que, en gros, il faut faire, si possible, des pauses visuelles. Des pauses visuelles, pardon, ça veut dire, en gros, lorsque vous travaillez sur un écran, votre œil vous est donc accommode en permanence, puisque l'écran est à 30, 50, 60 cm, c'est pouvoir de regarder au loin de temps en temps afin de mettre l'œil au repos. Ça, c'est plutôt sur le côté, on va dire, trouble visuel. Et puis après, c'est diminuer le temps d'écran en privilégiant des divertissements sans écran, notamment de la lecture avant le sommeil. On conseille de faire minimum une demi-heure, une heure sans écran avant le coucher. Et puis pour ce qui est sur le côté environnemental, ça va être aussi les recharger de manière à pouvoir maintenir au maximum la durée de vie de la batterie en évitant d'amener le téléphone en bout de cycle de batterie, etc. Pareil, lorsque vous remplacez un téléphone, il y a des bonnes pratiques entre guillemets en termes de santé environnementale. Premièrement, c'est pour votre téléphone usagé de le mettre au recyclage et éviter donc de le garder ou de le jeter dans n'importe quel endroit. Et puis pour le nouveau téléphone que vous achèterez, il faut penser à deux choses. C'est premièrement éventuellement le reconditionner. Alors il y a des intérêts financiers, c'est souvent aussi pour ça que c'est utilisé, mais il y a également des intérêts environnementaux là-dessus. Et puis ça va être de penser aussi à certaines marques qui proposent, on ne les citera pas, mais qui proposent des labels et des certifications pour une construction plus écologique et une réparabilité plus importante, ce qui permet de moins changer souvent ce même téléphone. Et j'en arrivais au bout.
Alors, quelques questions. Oui. Comment dire Donc vous avez parlé d'addiction, Simon Fortin, voilà, addiction aux écrans. Alors à partir de quand on peut parler d'addiction ?
Alors, il n'y a pas de quantité pour parler d'une addiction. L'addiction, elle va se mesurer, en tout cas se pouvoir être évoquée, lorsque l'usage n'est plus, comment dire, lorsque la personne qui fait l'usage de ces écrans n'est plus en capacité de maîtriser son usage. C'est plus sur un côté, on va dire, justement, non pas quantitatif, mais qualitatif, quand il n'y a plus la maîtrise de ce temps d'écran.
Alors, une autre question, j'en profite, hein, puisque j'ai le micro. Alors, si les écrans sont un outil de travail, c'est-à-dire que la personne, elle va, dans certains métiers, travailler une bonne partie de sa journée, voire toute la journée sur un écran. Donc là, comment, dans ce contexte-là, on peut réduire l'écran ? Ça semble compliqué.
Tout à fait. C'est pour ça. Il ne faut pas stigmatiser non plus totalement l'écran. De toute façon, il fait partie de notre vie et on est obligé de s'en servir au quotidien. Donc pour une personne qui va l'utiliser tous les jours, ça va être essayer de minimiser, on va dire, les effets négatifs de l'écran. Alors, comme je disais, les filtres bleus pour aider sur le sommeil. Ça va être, pour une personne notamment qui travaille sur PC, d'adapter son matériel et son bureau pour que ce soit le plus confortable possible, notamment aussi pour la posture, on n'en a pas parlé. Mais effectivement, la posture sur un bureau peut être gênante et peut provoquer à terme des maux, notamment des douleurs au niveau du dos et des lombaires. Donc le but, ça va être d'adapter son écran, d'adapter son poste de travail pour, on va dire, minimiser au maximum les effets négatifs sur la santé. Mais oui, parfois, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser cet écran.
Une dernière question avant qu'on puisse faire une pause musicale, à moins que nos invités aient d'autres questions, remarques à faire. Est-ce qu'on peut parler aussi de pollution des écrans, en fait ? Parce que des écrans, finalement, il y en a aussi partout, en ville, dans l'environnement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une pollution ?
Alors, oui, puisque ça peut être une pollution. En fait, une pollution, elle peut être visuelle. Donc en fait, à partir du moment où il y a une gêne de ces écrans qui peuvent effectivement, notamment les écrans publicitaires, peut-être c'est ça que j'imaginais dont vous parliez, qui peuvent envahir nos villes, oui, effectivement, c'est une gêne. Et puis en plus de ça, c'est aussi la nuit où ces écrans peuvent, s'ils sont puissants, justement être source de pollution lumineuse. Et donc oui, on peut parler d'une pollution environnementale par ces écrans.
Je vous propose de faire une première pause musicale. On va écouter Alice Fibilou, avec mon excellent accent anglais. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tour.
Horizon. She left to see.
Et oui, bravo Fibilou. Sur Radio Campus Tour, dans la Méridienne 99.5 FM, nous poursuivons notre émission sur la santé environnementale avec nos invités Simon Fortin, médecin de santé publique et prévention, Lina Fanor, stagiaire en santé publique, et Gurvan Leboite, VRS. D'ailleurs, Gurvan, vous vouliez ajouter quelque chose à propos de charte. Oui, je dis bien charte et pas chartre, parce que des fois les gens se trompent.
Aussi pour montrer l'importance de la santé environnementale. En 89, il y a eu une charte européenne donc sur l'environnement et la santé qui posait le principe selon lesquels bonne santé et bien-être exigent un environnement propre et harmonieux dans lequel tous les facteurs physiques, psychologiques, sociaux et esthétiques reçoivent leur place. Et un tel environnement devrait être traité comme une ressource en vue de l'amélioration des conditions de vie et de bien-être. Et après, en 94, à Helsinki, on a amélioré cette charte en expliquant que la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Donc elles vont concerner également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Et après, on a du coup la charte de l'environnement qui a été adossée à la Constitution française et qui fait mention dans son premier article des liens entre santé et environnement au sens d'un droit fondamental. Donc ça aussi, tout ça montre l'importance qu'on a pu constater actuellement de cette santé, de l'environnement et de tout ce lien.
Voilà, et donc maintenant, vous souhaitiez nous parler de la qualité de l'air et de l'eau.
Oui, alors justement, souvent quand on va parler d'eau et de faire attention à l'eau, il y a beaucoup de gens qui vont réagir en mode « oui, mais on est la planète bleue, on a beaucoup d'eau, en vrai, ça va le faire ». Sauf que bah, non, pas du tout, parce que même si l'eau représente 80% de la surface terrestre, on a quand même sur ces 80%, 97,5% qui sont de l'eau salée. Donc ça nous fait que 2,5% d'eau douce, et même dans ces 2,5% d'eau douce, il y a 68 1,9 qui sont les glaciers et les neiges éternelles. Donc ça, c'est pas qu'on peut, on peut pas les boire. Il va aussi avoir à 30,8% les eaux souterraines, donc avec l'humidité des sols, les eaux marécageuses et le pergélisol. Ce qui fait qu'on a vraiment sur ces 2,5% que 0,3% d'eau potable, donc qui vont être les lacs, les rivières et les réservoirs. Donc on a vraiment moins d'1% d'eau potable pour les êtres vivants. Donc c'est même pas que pour nous, êtres humains, c'est vraiment pour tous les êtres vivants. On n'a vraiment quasiment pas d'eau potable. Donc ça va nous envoyer à multiples enjeux. Donc on va avoir tout ce qui va de la qualité microbiologique avec les pollutions, donc avec ce qui va être chimique, physique, les boissons, l'irrigation, l'hygiène, l'abondance ou le manque d'eau. On va aussi avoir les énergies, le tourisme et le conflit, les fontes des glaces. Donc vraiment, quand on regarde tout ça, au final, bah, ça montre à quel point l'eau est importante et qu'il faut vraiment faire attention là-dessus. Et on va constater avec le réchauffement climatique un manque grandissant d'eau. Et bah, on peut le voir là même avec la Loire qui commence tout juste à réavoir un niveau à peu près potable. Bah, c'est assez dingue. Donc on va vraiment faire attention. Et c'est pour ça qu'actuellement, on va essayer d'éviter dans le sud ou dans d'autres régions où il fait chaud, d'éviter les piscines ou toutes ces choses-là, parce que c'est vraiment de la... On va utiliser de l'eau potable juste pour un loisir, même si ça peut faire du bien. Bah, des fois, c'est mieux de le boire que de l'utiliser dans ses loisirs. Donc après, je vais aussi parler de l'air. Donc la pollution atmosphérique, qui est la loi sur l'air de 1996, c'est une introduction par l'homme directement ou indirectement dans l'atmosphère et les espaces clos de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger notre santé ou les ressources donc biologiques et aux écosystèmes. Donc ça va influer sur les changements climatiques, détériorer les biens matériels, provoquer les nuisances olfactives. Donc tout ça va nous envoyer au premier polluant atmosphérique, ça va être le monoxyde de carbone. Donc il est responsable d'environ 3500 intoxications par an, en comptant du coup accidents et suicides. Et ça va avoir lieu souvent avec des appareils de chauffage mal réglés, des mauvaises évacuations, des produits de combustion, chauffage d'appoint ou le tabagisme aussi. Et le petit bémol de ce monoxyde de carbone, c'est que c'est incolore, indolore et la densité est voisine à l'air. Donc on ne s'en rend pas compte en fait quand il va y avoir... une fuite ou quelque chose. Les seules choses qui peuvent nous faire titer, c'est les signes inauguraux aspécifiques. Donc on peut avoir des nausées, des vomissements, des vertiges, des troubles de l'humeur et de la tachycardie. Donc les mesures qui vont être à prendre pour éviter tout ça, ça va être de surveiller les installations à gaz de plus de 15 ans et l'entretien annuel des chaudières. Mais l'entretien annuel des chaudières, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tous les ans, même dans nos logements étudiants, il faut... qu'on prenne l'initiative, si nos propriétaires ne le font pas, de venir faire un entretien de la chaudière, d'appeler quelqu'un pour qu'il fasse l'entretien de la chaudière. Donc on a 4 réflexes par contre à avoir en cas d'intoxication. Donc en premier, ça va être ouvrir immédiatement les portes et les fenêtres du logement, arrêter les appareils de chauffage et de cuisson, et sortir à l'air libre. Donc vous prenez vos animaux de compagnie, vous sortez, vous attendez vraiment que les secours arrivent avant de re-rentrer. Même si vous avez oublié quelque chose à l'intérieur, il faut rester à l'extérieur et attendre l'arrivée des secours. Et après, on a aussi un site qui est www.prévention-maison.fr qui permet justement d'expliquer toutes les préventions à avoir avant et après. Donc, si on a l'intoxication ou avant, comment éviter ces intoxications. Et le réflexe aussi à avoir tous les jours, ça va être d'ouvrir au moins un quart d'heure ces fenêtres. Donc si vous en avez qu'une, vous ouvrez qu'une fenêtre, ça ne changera pas grand-chose, mais au moins 15 minutes, ça évite, vous éteignez le chauffage, et dans tous les cas, la chaleur de l'appartement n'aura pas le temps de partir. Et au bout de 15 minutes, vous mettez un chrono, vous refermez, vous gardez cette chaleur-là. Parce que souvent, c'est un peu, surtout avec la température qu'il fait actuellement, c'est d'avoir peur que la chaleur parte, et qu'après on mette du temps à réchauffer l'appart, mais non, pas du tout. Les 15 minutes, justement, suffisent pour aérer et renouveler tout l'air. Donc voilà.
On voulait ensuite poursuivre sur les cosmétiques et les produits ménagers. Alors ça, c'était pour aborder une notion dont on entend de plus en plus parler. Je voulais parler de celle des perturbateurs endocriniens. Alors, il y a encore une vingtaine d'années, on en parlait assez peu. Elle a fait son essor en fait au début des années 2000, même si cette connaissance et cette suspicion existaient auparavant. Et donc, on en entend de plus en plus parler dans les actualités. Ça peut parfois faire peur, mais en fait, là, ce qu'on voulait aujourd'hui parler, c'est de quoi parle-t-on effectivement. Donc, les perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont des substances ou des mélanges de substances qui possèdent la capacité d'interférer avec le système hormonal. Et ce système hormonal, c'est aussi ce même système qu'on appelle le système endocrinien, d'où le terme de perturbation endocrinienne. L'État et l'Europe se penchent également de plus en plus sur la question et ils ont adopté, notamment en 2019, une deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Alors son joli nom, c'est SNPE2, qui est une composante de 4... Et c'est donc en fait un plan qui fait partie même du plan national de santé environnement de 4e version, donc le PNSE4. Ça, c'est en fait c'est un pilotage à la fois, et on va le voir, par le ministère de la Transition écologique et le ministère chargé de la Santé. Donc on voit bien qu'on est sur les deux thématiques en même temps. L'objectif de ça, c'est de réduire l'exposition des populations et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens, en renforçant la réglementation sur les perturbateurs endocriniens qui sont référencés comme tels, la formulation et l'information des personnes également, et en améliorant la connaissance sur ces substances, donc en favorisant la recherche autour de ces fameux perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, ou PE, on va les appeler comme ça maintenant, c'est plus facile à dire, peuvent avoir des effets néfastes sur la reproduction, la croissance, le développement ou encore le métabolisme. En fait, surtout les moments de la vie et les transitions de la vie où le système endocrinien est le plus important. Ces effets concernent les individus qui sont directement exposés, à plus ou moins long terme, parce qu'effectivement, on le verra, c'est pas une exposition à perturbateurs endocriniens à un moment court, une intensité donnée, qui va avoir un effet. C'est plutôt une exposition sur le long terme, et c'est pour ça qu'on commence à parler d'exposome pour cette raison-là. Ça peut avoir des effets sur ces personnes-là, mais également sur la descendance, puisque, comme on l'a dit, c'était un perturbateur endocrinien, et il peut également toucher la descendance de la personne. En outre, ces PE modifient la production naturelle de nos hormones naturelles, notamment les œstrogènes et les testostérones. Ils miment l'action de ces hormones en se substituant à elles, donc c'est pour ça qu'ils sont perturbateurs du système hormonal, et donc peuvent empêcher l'action de ces hormones en se collant aux récepteurs. Notamment, ça peut avoir des effets sur la thyroïde, sur l'utérus, les testicules, etc. Les conséquences de ces perturbateurs endocriniens sont donc complexes à étudier, puisque, comme on le disait, ce n'est pas une exposition ponctuelle à une substance qui va avoir un effet, mais plutôt une exposition répétée à petite dose à cette substance qui peut avoir un effet. Donc prouver qu'une substance a un mode d'action de perturbation endocrinienne est complexe à réaliser. C'est pour ça que les raisons et les liens de cause à effet ne sont pas certains pour nombre de ces perturbateurs endocriniens et que peu sont officiellement définis comme perturbateurs endocriniens. Parmi ces perturbateurs endocriniens reconnus, on a le bisphénol A, dont on n'avait pas entendu parler, notamment jusqu'en 2015, et notamment dans les maternités, puisqu'en fait on en retrouvait dans les biberons, et on le sait qu'elles avaient un impact sur la santé des jeunes enfants, et sur notamment leur développement. Il y a également les phtalates ou les parabènes qu'on va retrouver dans certaines conserves, et donc qui sont des perturbateurs endocriniens reconnus, et donc maintenant interdits. Le risque aussi peut provenir de ce qu'on appelle parfois l'effet cocktail, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. L'effet cocktail, c'est en fait l'exposition à plusieurs perturbateurs endocriniens, ou à plusieurs substances et potentiellement perturbatrices endocriniennes, et qui, par ce cocktail-là, vont avoir un effet.
Pour éviter cet effet cocktail, nous allons recommander d'utiliser des produits naturels qui sont faciles d'accès, qu'on peut trouver assez facilement au supermarché. La première des recommandations, c'est vraiment de ne pas hésiter à lire les étiquettes des produits ou si on n'arrive pas à les décortiquer, à utiliser des applications qui sont très bien faites, qui peuvent décrypter ces étiquettes et nous orienter dans nos choix. Il est bien aussi de pouvoir remplacer les produits classiques par des produits naturels, comme je disais tout à l'heure, qui sont faciles à trouver en supermarché, tels que le savon de Marseille, l'huile d'argan. Par exemple, le vinaigre blanc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser très facilement parce qu'il a un effet détartrant, assainissant, désinfectant. C'est une chose qu'on peut avoir dans toutes les pièces d'eau de nos maisons parce que ce sera très facile à utiliser et vraiment très efficace. Le savon noir, il va dégraisser, il va détacher, il nettoie. On peut l'appliquer sur la tache, sur une tache de sauce tomate, par exemple, sur un t-shirt avant lavage, ça va commencer à désincruster la tache et facilitera le lavage par la suite. Le bicarbonate de soude, qui est un produit qui peut servir de produit à récurer, il désodorise, il enlève les moisissures et mélangé au savon noir, il nous permet de nettoyer des graisses incrustées telles que celles qu'on peut retrouver sur nos plaques de cuisson. Alors, deux petites idées, recettes faciles à faire. D'abord, un masque visage. Donc, pour cela, on aura besoin d'un demi-concombre, d'un yaourt nature, et c'est tout. On épluche le concombre, on le mixe avec le yaourt, on l'applique sur le visage, 10-15 minutes, on le laisse poser. On rince abondamment et notre visage sera éclatant, lumineux, le teint sera bien éclatant. Une autre petite recette, un dentifrice maison cette fois-ci. Donc on a besoin de 4 cuillères à soupe d'argile blanche qu'on trouve facilement au supermarché ou en magasin bio, d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de 2 gouttes d'huile essentielle. Menthe poivrée, c'est parfait, comme ça on va retrouver à peu près le petit goût de notre dentifrice de supermarché. On mélange le tout et on obtient un dentifrice qui sera tout aussi efficace que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on achète en supermarché. Maintenant, je vais vous parler de notre alimentation. Alors, il faut qu'on soit conscient que la santé environnementale est impactée par de multiples facteurs et que l'un des facteurs l'impactant le plus, c'est notre alimentation. Parce qu'en effet, un quart des émissions de gaz à effet de serre en France provient de notre alimentation, au même titre que le transport ou que le logement. C'est énorme. À l'échelle de la planète, 70 à 80% de la déforestation provient de la production agricole. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la population augmente. Il faut continuer à nourrir cette population. Il faut pouvoir la nourrir. En plus, nos besoins, pas nos besoins, mais notre façon de nous alimenter se modifie, augmente. Donc, la déforestation augmente pour planter plus, pour qu'on se nourrisse plus et souvent plus mal, malheureusement. Ça signifie que nous avons entre les mains ou entre nos dents, les moyens de faire infléchir la production de gaz à effet de serre et in fine le réchauffement climatique et ses effets délétères sur l'environnement. En France, l'agriculture occupe 54% du territoire et génère 20% des émissions de gaz à effet de serre. Les modes de production ont parfois de lourdes conséquences sur l'environnement. L'utilisation d'engrais et pesticides, la dégradation des sols et des réserves d'eau, une forte consommation d'énergie. Le transport, essentiellement routier, des denrées pollue l'air et émet des gaz à effet de serre, sans compter l'impact des importations par avion. Ensuite, il faut stocker, conserver les produits. Tout ça augmente les consommations en énergie. Dans les grandes surfaces alimentaires, la réfrigération représente à elle seule 40% des consommations d'énergie. L'agriculture exploite aujourd'hui plus du tiers de la surface des continents. Cette productivité accrue des terres s'est amplifiée dans les pays industrialisés par la transformation des pratiques agricoles, allant de pair avec la croissance des industries, l'uniformisation des cultures et de l'élevage, l'intensification de l'agriculture sont les principaux moteurs de l'érosion de la biodiversité terrestre du fait de plusieurs processus, le changement d'usage des terres, la perturbation des écosystèmes. On va se rendre compte que disparaissent de nombreuses espèces d'animaux et de végétaux et qu'à contrario vont apparaître une faune et une flore qui ne sont pas habituelles et qui sont souvent néfastes à l'écosystème. Je vais vous prendre un petit exemple pour expliquer cet impact de notre alimentation sur l'environnement. Le poisson va être pêché en mer par les chalutiers en Bretagne. Et en grande partie, il va être vendu dans des criées, parfois tout près en Bretagne, mais parfois un petit peu plus loin. Et il peut arriver que ce poisson pêché en Bretagne parte pour être vendu à la criée ailleurs, peut-être à Rungis, pour être exposé et revendu en Bretagne. C'est juste impressionnant, c'est une aberration. Aujourd'hui, on parle de modernité en termes de vente de poissons. Quand on vend le poisson, on vend direct sur les quais après qu'il soit pêché. On revient en arrière, on dit que c'est de la modernité, alors que ça, c'est peut-être juste du bon sens. La guerre en Ukraine nous a permis de nous rendre compte qu'une grande partie de ce que nous consommons aujourd'hui dépend de productions étrangères, comme l'huile de tournesol, le blé. Cette production a un impact énorme sur l'empreinte carbone des aliments que nous consommons. De plus, nous cuisinons moins, au profit de produits plus faciles à consommer, en conserve, réfrigérés, congelés. Plus un produit est transformé, conditionné, réfrigéré, plus il consomme de l'énergie. Ainsi, que des matières premières pour son emballage. Alors, dans les petites recommandations, nous devons tout d'abord tenter de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, l'aliment le plus respectueux de la planète, le plus économe en eau et le moins émetteur en CO2 est celui qu'on ne va pas jeter, qu'on va consommer. Pourtant, en France, ce sont plus de 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui finissent dans une benne à ordures. Un immense gâchis dont la responsabilité incombe à tous les acteurs, et notamment nous. La deuxième des recommandations, c'est de bien choisir ces aliments. C'est un point essentiel pour limiter l'impact environnemental de ces aliments. Chercher son origine, le type d'agriculture, le transport, privilégier les produits de saison. Consommer des fruits et des légumes de saison, donc du chou en hiver, des fraises en été. Troisième recommandation, c'est de favoriser les vrais circuits courts. Alors, on parle de circuits courts, on se targue que les produits ont été vendus en circuit court. Le circuit court, ça veut juste dire qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, sauf que l'aliment peut avoir fait des kilomètres entiers pour qu'on puisse les consommer. On peut privilégier la vente directe, on peut aller chez les producteurs. Aujourd'hui, en plus, sur Internet, sur les réseaux, on trouve des entreprises qui nous proposent des paniers de produits locaux de saison. Pourquoi ne pas les utiliser? Souvent, en plus, ces produits sont certifiés en agriculture biologique. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Donc, il existe des solutions pour une alimentation plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les paniers de production locale et de saison. Donc, n'hésitons pas à les commander. D'ailleurs, souvent, ils nous permettent de découvrir des fruits, des légumes qu'on ne connaissait pas. Ça nous permet d'enrichir notre alimentation et de sortir de notre monotonie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on conseil encore, c'est d'adopter une alimentation qu'on dit flexitarienne, donc avec moins de viande, 3 jours de viande par semaine par exemple, moins de poisson, deux repas maximum par semaine, plus de légumes qui seront cultivés à proximité, plus de légumineuses et de céréales, moins de produits transformés et de farines raffinées. Et ce régime devrait nous aider à aller mieux, mais surtout à avoir moins d'impact sur la santé environnementale.
Merci Lina Fanor pour tous ces éclairages. Alors j'ai quelques questions pour vous. Vous avez mentionné des applications qui permettent justement de savoir un peu ce qu'il y a dans les produits, est-ce que c'est nocif ou pas. Est-ce que vous pouvez en mentionner certaines?
Alors, j'ai pas envie de faire de la publicité. En plus,
si on en mentionne plusieurs, je pense que c'est pas grave.
Alors, je pourrais en mentionner une déjà, mais c'est vrai que c'est une qui est assez controversé en plus ces temps-ci, parce qu'il y a beaucoup de... je regardais encore une émission dernièrement, il y a beaucoup de producteurs qui ne comprennent pas pourquoi ils sont décriés par ces applications, par cette application en particulier, donc je préfère ne pas répondre, ne pas de faire de pub.
Je pense qu'il s'agit de Yuka.
voilà, pour ne pas la citer.
voilà, donc après, en fait d'applications, je pense que peut-être certaines peuvent être utiles également, c'est les applications anti-gaspi. Donc là, qu'est-ce que vous pensez de ces applications-là ?
Pour moi, les applications anti-gaspi, même moi, je n'en utilise pas, mais c'est vrai que de façon générale, au supermarché, je vais m'orienter vers les rayons anti-gaspi. Je vais d'abord essayer de m'approvisionner là et ensuite aller vers autre chose. Anti-gaspi, ce sont souvent des produits dont la DLC est courte, arrive bientôt à échéance, qu'il faut utiliser avant d'être jeté, ou même tout simplement pouvoir aller au marché et acheter des produits qui sont moins conformes aux normes esthétiques, mais qui sont tout aussi bons que les produits qui sont vendus sur les étals des grandes surfaces.
Alors j'en profite pour rappeler à nos auditeurs étudiants, en fait de paniers de fruits et légumes, que la SMERA propose aux étudiants, donc moyennant 6 euros, de s'approvisionner une fois par semaine en fruits et légumes. Donc pour avoir accès à ces paniers, il faut aller s'inscrire sur le site de la SMERA. Ça coûte 6 euros et vous pouvez aller le récupérer tous les mardis, donc soit dans le local de la SMERA près des Halles, soit chez l'école Hauts de Lyon Excelia. Donc il faut venir évidemment avec votre justificatif. Après, vous êtes inscrit en ligne pour récupérer votre panier. Et donc là-dedans, c'est des fruits et légumes de saison, évidemment. Et puis, j'ai une dernière question. Après, j'arrête de vous embêter.
M'embêtez pas.
J'aimerais savoir si des substances naturelles peuvent être des perturbateurs endocriniens. Parce que quand on entend perturbateurs endocriniens, je suppose que certains de nos auditeurs imaginent des produits mis sciemment ou non par de méchants industriels. Pour rendre le produit plus comme ceci ou plus comme cela, mais est-ce que certains produits naturels peuvent aussi avoir cet effet ?
Alors franchement, je vais laisser Simon répondre à cette question.
La réponse est simple, oui. oui, et puis en fait, même parfois la perturbation endocrinienne et même l'effet recherché, pour faire simple, hein, le traitement hormonal contraceptif, c'est une perturbation endocrinienne voulue, quoi. Donc non, oui, il y a effectivement des substances naturelles qui sont perturbatrices endocriniennes. La perturbation endocrinienne, c'est un mode d'action. Soit ce mode d'action est recherché, connu, voulu, et donc ok. Soit justement, c'est des substances, et là, c'est là où c'est problématique, où il y a une suspicion de perturbation endocrinienne qui n'était pas recherché au départ.
Mais est-ce qu'on peut penser à des substances, par exemple, parce que ça a le vent en poupe, je pense à des huiles essentielles ou des choses comme ça, est-ce que ça peut aussi avoir un effet comme ça ?
Oui, tout à fait, et c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait, dans l'utilisation de ces huiles essentielles, bien regarder les modalités d'utilisation. Le risque, c'est justement d'avoir cette action non voulue de perturbation endocrinienne par ces huiles essentielles, donc oui, c'est tout à fait possible.
Est-ce que vous avez un exemple d'ailleurs d'une huile qui pourrait produire tel effet à forte dose ou si on l'avale au lieu de la diffuser, je ne sais pas.
Alors là, vous me posez une colle, je me rappelle. J'ai plus ça en tête, mais oui, ça fait partie de certaines huiles essentielles.
Et aussi, en parlant d'huile, là, c'est pas pour ce qu'on dit, mais c'est pour quand on parlait de nettoyer des fois avec le vinaigre blanc. On trouve que le vinaigre blanc sent très fort, et c'est vrai, mais ça fonctionne bien. Du coup, des fois, on va nous expliquer de mettre de l'huile essentielle, et là-dessus, il va falloir faire attention sur le dosage, surtout si on a des animaux de compagnie ou si nous-mêmes, on est allergique, parce qu'on peut avoir aussi une réaction à ça. Donc essayez de bien voir et de se renseigner pour bien doser cette huile essentielle, parce que certes, votre sol aura une meilleure odeur que le vinaigre blanc, mais il faut faire attention, surtout avec les animaux de compagnie qui peuvent prendre très mal la réaction aux huiles essentielles, contrairement au vinaigre blanc. Ils ne vont pas trop aimer, mais ils ne risquent pas d'avoir eux aussi une réaction allergique. Donc voilà, c'est pour un petit côté connu. Enfin,
voilà, donc c'est-à-dire que même si c'est des produits d'origine naturelle, c'est à utiliser avec modération. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avant d'enchaîner sur votre programme, chers invités, et nous allons partir en Allemagne. On va écouter nos camarades Britney Spears, voilà, artiste affilié à Radio Corax, qu'on salue, bien sûr, si jamais ils nous écoutent. Vous avez pu découvrir lors du programme Indire, dont fait partie notre admirable radio. Alors c'est parti, on va écouter musique un peu décoiffante dans la Méridienne, je vous préviens. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour. C'était Local Patriotismus par Britney Spears sur Radio Campus Tour. Et voilà, le bruit et la fureur. Quel lien fantastique pour revenir au sujet de notre émission, la santé environnementale. Et on va se pencher à présent avec nos invités sur justement les effets du bruit sur la santé.
Oui, on voulait vous parler effectivement, après cette interlude musicale, du bruit, puisque effectivement, quand on parle de pollution environnementale, une des premières plaintes exprimées en fait par les personnes lorsqu'elles sont interrogées sur cette thématique, eh bien, c'est le bruit. Avant même la pollution de l'air et la pollution de l'air intérieur, c'est effectivement le bruit qui revient en premier. Alors, le bruit, c'est effectivement une pollution environnementale, puisque c'est une pollution physique, c'est une vibration qui va être désagréable, en tout cas ressentie comme désagréable ou gênante par les personnes. Ces pollutions liées au bruit sont nombreuses, en tout cas les sources sont nombreuses. Ça va être principalement les modes de transport et les axes de transport qui vont être mis en avant par les personnes. Le voisinage, parfois. Certaines activités de loisirs, certains sites industriels. Les travaux également, quand les personnes sont à proximité de travaux. Et puis également les sirènes et avertisseurs sonores qui peuvent impacter le bon vivre des personnes interrogées. Le Code de santé publique a défini des normes et ainsi répertorie des mesures sur des cartes d'intensité sonore. On peut retrouver celle notamment de la métropole de Tours, et je vous invite à aller la regarder, elle est assez intéressante, où en gros, c'est une carte de la métropole, et avec un code couleur Le vert, c'est les lieux où l'intensité sonore est la plus minime. Et plus on augmente dans les rouges et dans les violets, plus l'intensité sonore est importante, et notamment quand on est dans les violets, c'est qu'on est au-dessus du seuil de pénibilité. Alors pour la métropole de Tours, c'est quoi les sources de ces lieux où l'intensité sonore est au-dessus de ce seuil de pénibilité? C'est en fait principalement les grands axes de transport, notamment l'autoroute A10 qui traverse la métropole, l'aéroport et les environs de l'aéroport, la rocade, les deux gares et les axes ferroviaires principaux, les grands boulevards également. On retrouve également, mais alors ça va être de façon un petit peu plus ponctuelle, on va dire, que ces grands axes routiers, les environs des cours d'école, pour notamment au moment des pauses, les proximités aussi de certains services de santé, notamment avec les urgences et le passage qu'il peut y avoir et avec les avertisseurs sonores, les grands parkings, les grandes zones commerciales, etc. Le but de ces cartes-là, c'est quoi? C'est de répertorier les sites où justement l'intensité sonore est importante, dans le but de diminuer dans ces zones-là cette intensité sonore. Alors, outre ces expositions qui sont donc communes à tout le monde, les étudiants peuvent être également exposés au bruit via leur temps de loisir. Si vous écoutez cette émission sur une enceinte qui pousse le son très fort, ben voilà, c'est une source d'exposition qui peut exister. Et puis ça peut être également lié à leurs études. Certaines filières, je pense notamment peut-être à la musicologie, ou aussi certaines des filières qui vont être très techniques avec des stages en entreprise, en usine, où justement il y a des sources sonores très importantes. Alors logiquement, il y a une protection d'équipements individuels, de protection comme des bouchons d'oreille, etc. Mais on est malgré tout plus exposé à ces bruits. Les effets sanitaires sur la santé humaine du bruit sont connus et identifiés depuis un certain nombre de temps. Évidemment, et ça semble logique, les problèmes auditifs existent, notamment une surdité précoce ou une baisse des performances auditives, de la fatigue également, des troubles dépressifs, des troubles cardiovasculaires également sont liés à cette exposition au bruit, et notamment un risque de développer de l'hypertension artérielle. On a également des troubles du sommeil, du stress et une baisse des performances cognitives liées à cette exposition au bruit. On est sur une émission sur la santé environnementale, donc effectivement, il y a également des impacts environnementaux. Et pourquoi on a ces impacts environnementaux? C'est qu'en gros, les nuisances sonores liées aux activités humaines réduisent de 50 à 90%, c'est une estimation selon différents chiffres, les lieux où les sons de l'environnement classique et naturel peuvent être entendus. Ainsi, certains animaux qui vont se servir des sons pour différentes activités, pour entendre arriver les prédateurs, pour se diriger, pour trouver de la nourriture, pour défendre leur territoire, pour attirer des partenaires sexuels, vont justement ne pas pouvoir utiliser les sons correctement, et ainsi ça va nuire à leur comportement. En usant ces comportements, ça modifie donc leur lieu de vie. Côté végétaux, c'est finalement aussi un impact lié à ça sur la santé animale, c'est qu'en gros on a une réduction des jeunes pousses de certains ânes notamment qui ont été remarqués, notamment certains conifères. Et ça s'explique parce que les oiseaux ou les insectes pollinisateurs qui étaient dans ces lieux-là ont fui ces zones-là, puisque justement l'intensité sonore a fait qu'ils ont dû se déplacer pour pouvoir se reproduire correctement, etc. Les mesures pour se protéger face à ces risques, alors. Évidemment, il y a baisser l'intensité des sources sonores, ça c'est la première chose à faire, mais lorsqu'on ne peut pas modifier cette source sonore, il y a deux façons, en fait, deux moyens de diminuer cette exposition au son et donc les effets potentiels. C'est diminuer le temps d'exposition, en diminuant le temps justement on écoute un casque, etc., et puis diminuer l'intensité d'exposition. Et comment on diminue l'intensité d'exposition? Soit on règle le volume de la source, évidemment, mais soit également on essaye de s'éloigner de la source sonore. Par exemple, je vais penser donc sur les activités de loisirs à des concerts. S'éloigner de quelques mètres et de plusieurs mètres des enceintes, ça peut énormément faire baisser l'intensité sonore et donc repasser sous le seuil de pénibilité. Utiliser également des bouchons d'oreille ou des casques, ça peut être un grand intérêt. Les bouchons d'oreille ne filtrent pas les sons. Tous les sons sont retranscrits au travers de ces bouchons d'oreille. Ça ne va pas modifier la qualité acoustique de ce que vous écoutez. Donc effectivement, les utiliser, ça va permettre de baisser d'une trentaine de décibels l'intensité sonore de ce que vous êtes en train d'écouter. Fermer les fenêtres au moment où, si on est à proximité d'un grand axe de transport, au moment notamment des pics de circulation, ça peut être aussi d'un grand intérêt, sans parler de la qualité de l'air.
Merci. Alors, j'ai quelques questions à ajouter. Vous avez mentionné des troubles cardiovasculaires. Alors, oui. Pardon pour mon ignorance, mais pourquoi des troubles cardiovasculaires?
Alors, On a remarqué que justement, le bruit avait un impact notamment sur le stress donc des personnes. Et c'est très probablement lié à une activité hormonale liée au stress qui a un impact sur ce système cardiovasculaire qui va pouvoir induire une hypertension artérielle. En gros, pour prouver ça, il y avait une étude qui avait été réalisée où c'était deux groupes de personnes qui avaient le même style de vie, les mêmes expositions. Seulement un groupe était exposé à des bruits au-dessus du seuil de pénibilité. Un autre ne l'était pas. Et on a remarqué que dans le temps, les personnes qui étaient exposées au bruit développaient plus facilement une hypertension artérielle.
C'est un effet boule de neige, alors, on pourrait dire ?
Finalement, oui.
Alors, j'ai une autre question. Où est-ce qu'on peut mettre les acouphènes, par exemple ? Déjà, c'est quoi ? Et est-ce que c'est lié à cette pollution sonore ?
Ça peut l'être. Donc, des acouphènes, c'est effectivement une sensation de sifflement gênante qu'une personne peut ressentir. Certaines vont développer sans traumatisme sonore particulier, en tout cas, ne s'en souviennent pas. Mais parfois, ça peut être lié, et ça, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont déjà expérimenté. Après une soirée où, justement, il y avait ou un concert où on était exposé à des bruits assez, assez intenses, le lendemain, on peut ressentir comme un sifflement gênant dans une oreille, ou les deux oreilles, d'ailleurs, c'est possible. Et c'est ça qu'on appelle des acouphènes. Donc ça peut être lié à un traumatisme sonore ou une exposition sonore trop importante qui a dépassé ce fameux seuil de pénibilité. Mais elles peuvent être aussi sans traumatisme ancien retrouvé.
Et ça veut dire que c'est un bruit fantôme qu'on entend dans sa tête ?
Ouais, ça peut être. Enfin, c'est ça. C'est en gros, c'est une fausse activation des cils qui sont chargés de d'interpréter les sons extérieur. Et cette fausse vibration, le cerveau l'interprète comme un son et un sifflement qu'il crée, mais qui est effectivement fictif.
Mais alors comment on fait pour diagnostiquer du son fictif ?
C'est une plainte de la personne. c'est subjectif, c'est si y a un sifflement exprimé, quoi.
Mais ça, on peut rien y faire.
Il n'y a pas grand-chose à y faire, non.
Navré pour nos auditeurs qui seraient concernés.
On propose également au SSU, alors j'en parle, des bilans auditifs de temps en temps. Les inscriptions se font souvent par mail, donc si vous voyez un mail du SSU qui vous invite à faire un bilan auditif et que vous avez la sensation d'être gêné par des acouphènes ou tout autre gêne auditif, n'hésitez pas à venir le réaliser chez nous.
D'ailleurs, c'est où le SSU ? On peut en profiter pour le rappeler.
Le SSU se situe très précisément à la 60 rue du Plat d'Étain, pardon, c'est à proximité de la place Rabelais, au niveau des services centraux de l'université, donc au niveau du Plat d'Étain. C'est entre la place Rabelais et le CHU de Bretonneau, en gros.
Voilà, donc on peut faire contrôler son audition, mais on peut aussi y faire plein d'autres choses. Est-ce que vous voudriez peut-être rappeler qu'est-ce qu'on peut faire là-bas d'autre ?
Oui, on peut. Enfin, ce qu'on va faire, du coup, ça va être. On va avoir. On a des gynécos qui sont là depuis 2 ans. Donc c'est des gynécologues, ce sont des femmes. Donc aussi, ça, souvent, ça peut... donc voilà. On a un dentiste, mais qui ne fait pas de soins dentaires, qui va faire de la prévention. Donc il va regarder et il va après nous expliquer voilà ce qu'il faut faire et vous pouvez aller chez le dentiste. On va avoir des médecins généralistes, on va avoir des psychologues, psychothérapeutes. Et contrairement à d'autres SSU en France, on va avoir une suite... du soin. C'est-à-dire que d'habitude, dans les autres SSU, on va avoir 2-3 rendez-vous avec un psychologue du SSU, et après, on va être envoyé vers un autre professionnel. Et là, pour le coup, non, on va vraiment avoir une suite jusqu'à ce que l'étudiant se sente mieux. Tous les soins sont aussi remboursés. Et il faut avoir aussi une mutuelle. Donc voilà. Et il manque un...
Non mais c'était ça, c'est en gros des différents professionnels de santé.
Et addictologie aussi.
Ouais, c'est autour de la santé mentale, autour de la santé sexuelle, avec des consultations, comme l'expliquait Curvin. Et puis après on fait des actions également de prévention et de promotion sur site. Et donc il y en a plusieurs qui vont venir prochainement. Et alors, on parlait aujourd'hui santé environnementale, il y aura une action... prochainement, ça peut être jusqu'au mois d'avril, puisque celle-ci, ce sera au mois d'avril. Sur le site de l'UIT Tournord et sur le site de la faculté de médecine, on va faire un escape game sur inscription. Justement, on va aborder cette thématique de la santé environnementale.
Voilà, est-ce qu'il y a d'autres dates à annoncer pour le SSU ?
Oui, du coup, nous, en tant qu'ERS, on va avoir plusieurs actions. Donc déjà, on va avoir le café des étudiants qui aura lieu sur plusieurs sites. Donc là, on a eu ce mois-ci, c'était au Tanner. Et là, on aura un net café des étudiants le 15 février à la fac Grandmont, qui sera sur la sexualité. Donc, on aura notre groupe ERS consacré à cela. Et le principe, c'est que vous veniez et que vous commencez, qu'on parle tous ensemble du sujet qu'on a mis un peu sur la table et autour de café, de quoi grignoter. Donc, le but, c'est vraiment de parler dans un moment assez intimiste parce que on a un certain nombre max pour ces ateliers-là. Et ça va être aussi à nous, ERS, après, de vous aider, si besoin, ou pas du tout, avec nos, en faisant en fait un relais avec d'autres professionnels de la santé. Sinon, le 27 janvier, on va avoir entre 11h30 et 14h une action de prévention du HPV à la fac Grandmont. Et le 2 février, de 10 à 15h, un dépistage des IST sans rendez-vous à la fac Grandmont aussi. Et après, vous pouvez retrouver toutes les actualités sur notre page Instagram, donc des ERS, donc c'est ERS de Tours. Et ça va être mis, vous aurez du coup toutes nos actualités, et on va aussi avoir des quiz sur plusieurs sujets. Là, ce mois-ci, ça va être sur l'alcool, le mois prochain, ça sera sur le chemsex, et le mois d'après, il me semble qu'on est sur le CBD. Et du coup, ça va être des quiz pour essayer de faire une première prévention de tout ça. Donc voilà.
Eh bien, merci à tous les trois d'être venus dans cette émission La Méridienne, émission consacrée à la santé environnementale. Merci Lina Fanor, stagiaire en santé publique, Simon Fortin, médecin de santé publique et prévention, et Gurvan Lebouette, étudiant relais santé. Profitons-en pour saluer Fanny Baudouin, aussi coordinatrice des étudiants relais santé. Et on va se quitter en écoutant Uzi Freya, donc superbe chanteuse, rappeuse, hip-hopeuse, voilà, que vous pourrez également écouter aujourd'hui même dans le cadre du festival Allotropique à 20h30 au Halles. Donc n'hésitez pas, s'il en reste, à aller chercher votre place donc sur le site du Temps Machine. Cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h30 et à écouter à volonté en podcast sur notre site www.radiocampustour.com. Merci à vous et au revoir.
Merci.
Au revoir. Merci.
Bounce, bounce, bounce. Shake it, shake it, shake it, shake it. Wobble, 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 wobble. Look back, do a split. Eye contact, bitch, you lit. Make the ass clap in the party, bitch, you lit. Make the ass clap in the party, bitch, you lit. Make the ass clap in the party, bitch, you lit. Make the ass clap in the party. Nigga, 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 me and my bitches don't have a time for this kind of bullshit.
Period.
Nigga, 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 me and my bitches, we don't fight for fake niggas, we fake your bitches. Don't call me hoe, got you girls, got you woes. Yeah, call me master when I walk on your balls. Or I will slap you so hard, disappear. You can call FBI, porté disparu. Nah, who was lit? Nah, who was lit?
Anything.
Nah, who was lit?
I guess me.
Bounce, bounce,
bounce, bounce.
Shake it, shake it,
shake it, shake it.
Beat you lit,
beat you lit.
I said beat you lit,
beat you lit.
Bounce, bounce,
bounce, bounce.
Shake it, shake it,
shake it, shake it.
Beat you lit,
beat you lit.
I pull up on your man, I steal his dick in quad like a hoe. Now who's the bitch? I'm all on fake, I be flaying this league. Now fuck what libo, join the freak. Now run me, bam, like you was a big. You wanna fucking like a speak? I'm bad to fuck this game. It's Uzi Freya, I'm the bitch. You wanna call me hoe? But you know I'm cold. Coming close, you know I'm a boss. I take your shit to buy a fuck. He said he got a digger like a horse. But his stuff is so goddamn small. I'm gonna go divorce.
I hope you're ready for the last part.
Bounce, 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 bounce.
So take a look.
Shake it, shake it, shake it, shake it.
So take a look.
Wobble, 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 wobble.
So take a look.
Look back, do a split. Eye contact, bitch, you lit. Yeah, make the ass.